Bon début de semaine à tous, province du Bas-Congo, baisse des activités portuaires et de dédouanement au port de Goma et Matadi. Parmi les causes, certains opérateurs économiques citent entre autres la multiplicité des services et la hausse des taxes de dédouanement. Qu'est-ce qui explique cette situation et que faire pour rendre les ports de Goma et Matadi compétitifs? Trois invités participent à cette émission. Le premier est avec moi dans ce studio, c'est Tassine Songani, analyste socio-économique. Bonsoir Monsieur Songani.
Bonsoir Alain.
Deux sont en ligne. Le premier c'est Tito Umba, directeur du département des sports maritimes à l'Office national des transports ONATRA. Bonsoir Monsieur Umba.
Bonsoir.
Albert Fabrice Puella, député national élu de Matadi au Bas-Congo. Bonsoir honorable.
Bonsoir Monsieur Alain.
Vos réactions nous sont parvenues prenons celle de Bedel Mandé de Dublin en Irlande. La RDC est le seul pays, sinon parmi les pays où la douane coûte énormément une fortune. Le transport et le dédouanement coûtent plus que le prix d'achat d'une marchandise dans ces différents ports, ce qui n'est pas du tout encourageant, surtout pour les investisseurs potentiels. Michel de Bukavu, Sud-Kivu, j'espère qu'on n'arrivera pas à la situation du Sud-Kivu où les gens dédouanent leurs biens au Rwanda avant de les faire entrer par petits lots au Congo. Quelle perte pour l'État à cause de la justice fiscale. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778. Ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Baisse des activités portuaires et de dédouanement au port de Boma et Matadi dans la province du Bas-Congo. Parmi les causes, certains opérateurs économiques citent, entre autres, la multiplicité des services et la hausse des taxes de dédouanement. Pour en parler, nous avons en ligne depuis Matadi, Guy Roger Nyampala, l'un de nos correspondants dans cette ville. Bonsoir Guy Roger Nyampala.
Bonsoir Alain Irunga.
Guy Roger, quelle est la situation actuelle dans ces installations portuaires du Bas-Congo?
Alain, parlons d'abord du port de Boma. Le constat de cette baisse des activités est fait par les opérateurs économiques et même certains politiques. Et selon ces sources, c'est depuis début février 2010 que cette situation est observée dans ce port. S'il faut parler des chiffres, selon ces sources, tenez Alain, le 14 mars dernier, le bateau Eurocargo Europa avait déchargé une cargaison de 112 véhicules au port de Boma, alors qu'à la fin de l'année dernière, ce même navire déchargeait au port de Boma donc 2500 véhicules. Une chute des importations, du moins pour le cas évoqué, de plus de 90%. À ce tableau sombre, il faut ajouter le nombre réduit des conteneurs et d'autres marchandises, notamment les produits d'occasion connus sous le nom de bilocos qui arrivent à Boma. La même situation est également signalée au port de Matadi. Les navires arrivent de moins en moins.
Qu'est-ce qui est à la base de cette situation, selon les sources que vous avez contactées, Guy Roger?
Plusieurs raisons, selon les opérateurs économiques. Il y a notamment la multiplicité de services au niveau de ces ports. Et selon les importateurs au port de Goma, par exemple, on parle de 14 services, OCC, quarantaine, bivac, antifraude, repère, etc. À cela, il faut ajouter les différentes taxes imposées lors des opérations de dédouanement des marchandises. Et un opérateur économique avec qui nous nous sommes entretenus cite, par exemple, une taxe que les agents de la régie provinciale d'encadrement des recettes perçoivent sur toutes les marchandises. Il y a également qui vient de doubler le montant à payer. La liste est longue selon lui. Alors, ces opérateurs économiques affirment que les ports du Bas-Congo sont les ports les plus chers du monde. Autant des raisons à l'un qui justifient aux yeux de ces opérateurs économiques la baisse des activités de dédouanement dans ces deux installations portuaires du Bas-Congo. Voilà pourquoi, selon eux, ils préfèrent aller dédouaner leurs marchandises ailleurs.
Pour terminer, Guy Roger, quelles peuvent être les conséquences de cette situation sur l'économie de la province du Bas-Congo?
Écoutez Alain, les conséquences seront énormes pour l'économie de la province si rien n'est fait afin de sauver ses ports. D'après les opérateurs économiques, les recettes dues non seulement à la province mais également au pays vont baisser. À part ça, il y aura aussi des conséquences sociales car pour la ville de Matadi par exemple, 90% des activités économiques dépendent du port de Matadi. Donc quand les activités de ce port tournent au ralenti, cela se ressent également dans la ville.
Merci Guy Roger Nyampala et bonne soirée à Matadi au Bas-Congo.
Pareillement.
Tito Umba, directeur du département des ports maritimes à l'Office national des transports ONATRA. Est-ce que vous confirmez, monsieur le directeur, cette baisse des activités au port de Matadi et Boma?
Bon, je crois que si cela est vrai, peut-être pour le moment, mais sur place où se retrouvent les sièges du département des ports maritimes, je ne sais pas les confirmer, parce que si nous nous basons des statistiques des trois derniers mois que nous avons connus ici à Matadi, nous allons voir que le tonnage est resté quasiment constant, dans le sens que l'année 2009, nous avons, quand nous voyons l'écart entre les tonnages de 2010, nous avons à peine 800 tonnes de différence. Donc, à moins que le mois de mai puisse nous trahir, mais est-il que jusqu'au mois d'avril, les quatre derniers mois, vous allez voir que le tonnage est resté presque la même chose. Mais il y a plusieurs facteurs, peut-être on peut constater une baisse à travers ces facteurs, mais cela n'est pas dit que voilà, le tonnage a baissé, non. Le tonnage est quasiment constant.
Et alors, quels sont ces facteurs dont vous parlez?
Bon, vous savez, il y a des facteurs macroéconomiques. Hein, quand nous nous rendons compte, par exemple, que vous savez très bien que pour atteindre le point d'achèvement, il y a toute une série de, je peux dire, de facteurs, ou bien de conditions qui font que nous puissions atteindre ce point d'achèvement. La preuve en est que vous voyez un peu le franc congolais est en train de prendre de la valeur vis-à-vis de la paix étrangère, c'est parce qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis au niveau macroéconomique du pays, de façon qu'on puisse arriver à cela. Et à cela, il faut savoir que la circulation monétaire doit diminuer. Donc, vous voyez, le franc congolais est devenu un peu rare par rapport aux devises étrangères. Ce qui fait que le franc congolais prend de la valeur. Il y a carrément des critères économiques qui font qu'on puisse diminuer peut-être la masse monétaire en franc congolais par rapport au dollar. Ouais, la franc congolais par rapport au dollar, c'est ça qui fait que aujourd'hui, les gens ont difficile peut-être à lui donner leurs marchandises. Mais le stock est là, la marchandise est là, mais les gens ne sont pas dédouanés. Hein.
Alors donc, si je vous comprends, les statistiques que vous évoquez contredisent sur le terrain, c'est que les opérateurs, le constat des opérateurs économiques qui font que les activités ont baissé, mais qu'est-ce que vous dites de la multiplicité des services, des différentes taxes qui sont organisées au niveau des ports?
Bon, là, évidemment, moi je ne sais pas, je suis le gestionnaire de la concession, mais je ne suis pas là pour parler des différentes taxes qui sont dans les ports. Moi, je crois que les taxes sont restées les mêmes, et je ne vois pas une taxe qui s'est ajoutée parmi les taxes ordinaires du port. Bon, s'il y a eu des taxes ajoutées, bon, moi, je ne connais pas ça.
Honorable Albert Fabrice Puila, vous êtes député national élu de Matadi au Bas-Congo. Vous venez de suivre Monsieur Umba Tito. Quel est votre point de vue en ce qui concerne la baisse des activités dans les ports de Matadi et Boma?
Merci beaucoup Monsieur Alain Hiro. Je tiens à vous saluer et à saluer mes co-débatteurs, Monsieur le chef de département des ports maritimes, tout comme Monsieur Tatine Sungani qui est avec vous sur le plateau. C'est un problème réel que nous vivons en République démocratique du Congo, pas seulement dans le Bas-Congo, parce que ce problème de nos ports maritimes, c'est pas un problème du Bas-Congo, c'est un problème national. Et la baisse du trafic est une réalité. Peut-être les chefs du département que je venais de suivre, lui, étant à Matadi et recevant les grands importateurs qui viennent avec des marchandises, les majors à capitaux étrangers, comme les Texco et autres, pour ne pas faire leur publicité, peut-être n'a pas constaté, mais en réalité, il y a une baisse sensible. D'ailleurs, l'illustration de Guy Roger Niampala, que je salue en passant, est assez éloquente. Lorsque un grand navire comme Aero Cargo, qui vient avec plus de 2000 véhicules, vient avec une centaine à peine. C'est très perceptible parce que vous comprenez, les petits Congolais, la petite classe moyenne que nous voulons faire émerger, ne vient pas avec des grands conteneurs, une masse importante qui débarque au niveau de Matadi. Je peux comprendre que monsieur le DTM ne constate pas, mais à Boma, c'est très sensible. Et pour nous, nous pensons que cela est lié à plusieurs facteurs. Premièrement, les infrastructures. Et ces infrastructures, il faut les mettre à deux niveaux. D'abord, les infrastructures, les voies de communication. Les biais maritimes sont des plus malades. Figurez-vous, la RZM est dépourvue de moyens. La RZM qui devrait draguer le fleuve. Il y a des ensablements à gauche, à droite. La RZM a des dragues vieux de près de 40 ans. Comment on peut baliser, comment on peut draguer le fleuve lorsqu'on n'a pas de frais de fonctionnement? Il arrive qu'il manque même du carburant pour les dragues. C'est un premier problème. Le deuxième problème est lié aux infrastructures portières elles-mêmes. Tenez, pour Matadi, par exemple, les quais 1 à 4, 5 à 7, 8 à 10 ont été construits respectivement, je l'ai dit, sous le contrôle de monsieur le chef de port maritime, en 1890, en 1920 et en 1956. Et depuis plus de 3 ans maintenant, la première section n'offre plus la capacité pour la fluidité des mouvements. Enfin, c'est ce qu'elles se sont affaissées. Et alors que la population a connu une croissance de plus de 1000%. Donc, ça a augmenté la consommation et ça crée un sérieux problème. Et présentement, avec mes statistiques que j'ai, ce port ne reçoit que une trentaine de navires pour plus ou moins 4000 TEU, c'est-à-dire 20 équivalents unes dans des conteneurs de 20 pieds. Et pour les marchandises conventionnelles, plus ou moins 80 millions de kilos, soit un total de plus ou moins 140 millions de kilogrammes. Pour Boma, on a désaffecté ces quais qui se sont affectés pour Boma. Mais Boma a un sérieux problème. Les quais du port de Boma n'ont pas la capacité de recevoir un grand tonnage. Et ce qui explique leur affaissement continuel. Et si on ne prend pas garde, les quais du port de Boma risquent de s'affaisser. Et pour le port de Banana, tout ça est quasiment inexistant. Alors, pour les moyens de transport, nous avons l'armement national, c'est-à-dire la CNDC, qui devrait assurer les transports. Tenez, la CNDC ne loue des navires que pour l'Europe, pour Anvers plus particulièrement, enfin, général. Alors que les 70% des marchandises importées au niveau du Congo proviennent essentiellement de l'Asie. Et lorsque vous importez de l'Asie pour le Congo, vous pouvez prendre 3 mois pour que votre navire arrive, sans compter justement le problème de transbordement au niveau des ports les plus proches. Ainsi, un opérateur économique doit attendre 6 mois depuis l'achat des marchandises à l'étranger jusqu'à la réception au Congo. Et toutes ces activités tournent au ralenti alors qu'il fait face aux charges fixes telles que les salaires du personnel, les factures d'eau, d'électricité, les loyers de l'argent lui prêté par son banquier, les loyers du siège de ses activités et une multitude d'impôts et taxes. Merci, et le dernier élément, je voudrais juste excusez-moi, en ce qui concerne les tracasseries à M. Alain Hiron, plus de 20 services tenés. Monsieur Guignampala ne les a pas cités. Il y a l'OFIDA, l'OCC, l'ONATRA, la quarantaine végétale, la quarantaine animale, l'OGFREM, la DGI, la DGRAD, commerce extérieur, agriculture, Transcom, télécommunication, énergie, SONAS, sans parler des autres sacaliens, les parquets, la brigade antifraude nationale, la brigade antifraude provinciale, la police nationale congolaise, la police services spéciaux, la police économique, l'ANER, les TEDx, c'est-à-dire les NIAP, la police aux frontières, l'OGFREM et la DG qui revient encore à la DG alors qu'elles sont en convention avec l'OFIDA pour percevoir en leur lieu et place.
Merci honorable, permettez que je vous arrête à ce niveau, je vous redonne la parole dans un deuxième tour de table. Tatine Sungani, vous êtes analyste socio-économique, vous avez suivi les deux précédents intervenants pour Kito Umba. Il y a une constance d'après les statistiques dans les activités portuaires, mais on vient de poursuivre l'honorable Albert Fabrice Puella, pour qui ces problèmes sont réels. Quelle est votre analyse?
Je vous remercie pour l'invitation. Je vais être un petit peu long. Les raisons qui militent dans ce que vous avez dit là sont les mêmes, aussi bien pour le port de Matadi que pour celui de Boma. Je voudrais aussi dire au directeur de port maritime, nonobstant les chiffres de tonnage qu'il a, même s'il estime que 800 tonnes, c'est pas beaucoup, je voudrais être très clair et explicite pour dire qu'effectivement, le tonnage non seulement a diminué, mais les recettes dégagées au niveau du port de Matadi ont également baissé. Je m'en vais pour indication des recettes douanières qui pratiquement ont été réduites de moitié si on prend la même période pour les exercices passés. Alors, les raisons, vous avez parlé des raisons, je vais très rapidement vous citer les raisons. À mon avis, ils sont de 6 ordres. Premièrement, les raisons politiques. La mort programmée du port de Matadi avec le projet de pont route rail initié par le groupe Bolloré, lui-même d'ailleurs groupe architecte de la modernisation du port de Pointe-Noire, a jeté à mon avis un trouble dans la capacité de Matadi à servir de port de transit. Parce que j'aimerais dire ici que à l'origine, le port de Matadi était un port de transit.
Pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville, vous voulez?
Oui, le pont qu'on devait jeter entre Kinshasa et Brazzaville. Ça, déjà, commençait déjà à provoquer un problème. D'ailleurs, il levait de boucliers à ce sujet de la part des députés de Bas-Congo. Évidemment, deuxième raison, la multiplicité de services, c'est clair. Il y a un décret présidentiel qui fixe à 4 le nombre de services aux frontières, notamment à Matadi. C'est le service d'hygiène, l'ONATRA, les douanes et puis l'OCC. Malheureusement, on a constaté une multiplicité de services qui, donc, surenchérissent évidemment les taxes à payer. En troisième raison, je mourrais dire ici, je ne comprends pas pourquoi le port en eau profonde de Banana, jusqu'à ce jour, n'est toujours pas une réalité. Et il faut dire aussi que le port de Matadi, comme on l'a dit d'ailleurs dans le reportage, est le port le plus cher au monde. Deuxième raison, les raisons administratives. D'abord, il y a la tracasserie. En plus du fait qu'il faut payer de nombreuses taxes, il y a les agents commis à cet effet, les agents administratifs, sont très tatillons. Ils vous extorquent de l'argent pour des services qui, somme toute, relèvent de leurs compétences. Et cette tracasserie-là est de nature à décourager, bien sûr, les importations. Il y a également la diminution, la baisse de la productivité des agents au port, essentiellement des douaniers. Je crois que cette diminution de la productivité est essentiellement due à, au fait qu'ils accumulent des arriérés de paiement. La troisième raison est financière. Bon, vous savez, avec la crise financière internationale, il y a une baisse des revenus de façon générale et une baisse également, un ralentissement, si vous voulez, de la demande globale. Alors, lorsque la demande globale baisse, cela se traduit, disons, de façon réelle, pratique, par une diminution des importations. Et lorsque les importations baissent, diminuent, il est clair que l'activité elle-même diminue et les recettes également. Donc ça, ce sont les raisons financières. Pour ce qui est des raisons budgétaires, la pression fiscale exercée par l'État sur les opérateurs économiques est importante. Comment pouvez-vous imaginer que l'on doit débourser aujourd'hui ad valorem 51% de la valeur fixe d'un produit? C'est la taxe ad valorem la plus élevée au monde. Je l'ai dit. En tout cas, je ne suis pas sûr que je serai concédit. Et il n'est pas normal que vous achetiez aujourd'hui un véhicule d'occasion en Europe à 1 000 euros et que vous soyez obligé de débourser 5 000 euros pour toutes les taxes que vous devez payer au port de Matadi. C'est pas normal, c'est aberrant. C'est 5 000% plus cher que ce que vous achetez. Donc la pression fiscale est élevée, alors que l'Organisation mondiale des douanes préconise la facilitation du commerce international, notamment en allant vers la suppression des taxes douanières. Et comme vous le savez d'ailleurs, les barrières à cet effet, les barrières douanières sont en train de tomber les unes après les autres dans le monde. Nous sommes un des rares pays où les taxes sont élevées. Et aux États-Unis, par exemple, la valeur, et deuxièmement, c'est la valeur FOB. Bon, il y a aussi les allègements fiscaux qui me paraissent fantaisistes au niveau du port. Lorsqu'il y a des gens qui importent, vous constaterez que au niveau des allègements fiscaux, il y a une politique de découragement par rapport au recours des investisseurs. Je vais aller vite. Il y a la politique macroéconomique, comme l'a si bien évoqué un des co-débatteurs tout à l'heure. Cette politique macroéconomique de l'État qui se traduit par une politique de décaissement sur base caisse eh bien, amène l'État à préconiser d'atteindre le point d'achèvement dans un délai rapide. Malheureusement, elle s'accompagne, cette politique, d'une baisse de la circulation des signes monétaires. Et puisqu'il n'y a pas d'argent, on ne sait pas payer les gens, on ne sait pas consommer. Et quand on ne sait pas consommer, les opérateurs économiques ont tendance à baisser leurs stocks. Pourquoi avoir des grands stocks lorsque les marchandises qu'on importe ne sont pas vendues? Les deux autres raisons sont d'ordre économique et technique. Bon, notamment le programme de réforme de modernisation de la mer qui a abouti d'ailleurs à l'installation du guichet unique au niveau de Matadi. Le guichet unique à l'origine était conçu comme étant une solution au problème des dédouanements. Mais le guichet unique aujourd'hui est devenu un problème parce que les responsables du guichet unique sont devenus très tatillons, notamment en ce qui concerne les paiements des droits et taxes à l'occasion des importations. Bon, malheureusement, faute de temps, je ne suis pas en
voilà.
De citer les autres raisons, je vois les gestes.
Vous les évoquerez tout à l'heure. Tito Umba, vous l'avez suivi, hein, Tatine Soumiani et l'honorable Pouela. Est-ce que vous confirmez qu'à ce jour, le port de Matadi est le plus cher au monde?
Bon, je crois qu'avant que je puisse vous répondre à cette question, il serait souhaitable que je puisse essayer de fixer un peu les idées de nos interlocuteurs. Dans le sens que, moi, j'avais dit, la question qui m'a été posée avant, c'était de dire s'il y avait baisse d'activité. Je vous ai dit que j'ai confirmé que l'activité était quasiment constante. Pourquoi? Je vous ai dit que nous sommes restés presque avec le même tonnage. Quand je vois mes statistiques, en 2009, nous avons réalisé 701 430 tonnes. Par contre, en 2010, jusqu'au 4 premier mois, nous avons réalisé 709 329 tonnes. Donc, c'est ça qui fait à peu près une différence de 8 000 tonnes. Alors,
pour dire que l'activité
restait pratiquement constante. Là, il n'y a pas de problème. Mais je vois mal quand on doit se baser du nombre de véhicules déchargés au courant d'une livraison d'un bateau et on veut généraliser, dire que voilà, il y a baisse d'activité. Donc, je crois que si on pouvait avoir les statistiques de Goma, là, vraiment, vous pourriez peut-être essayer de voir. On peut avoir un mois où il y a baisse, mais l'autre mois, on peut avoir aussi une hausse. Donc, on ne peut pas partir d'un mois pour conclure la baisse. Quand moi je vois par exemple ici, un seul mois, le mois de février, au mois de février en 2009, nous avons réalisé 154 137 tonnes. Mais par contre, le même mois, en 2010, nous avons réalisé 170 747 tonnes. Donc, quand je prends maintenant le total 2009, de janvier à avril, nous avons 701 430 tonnes. Mais par contre, le total, ça fait 709 329 tonnes. Donc, on ne peut pas dire que voilà, l'activité a baissé. Mais quand vous dites par exemple qu'il y a une différence entre l'activité et le excès, ça c'est vraiment deux facteurs différents. Et nous ne pouvons pas dire que voilà, parce que il y a eu baisse des recettes, qu'il y a baisse d'activité. Moi, au niveau du port, je ne juge pas en fonction nécessairement des recettes, en fonction du stock que j'ai, en fonction des arrivages, de ce que moi je suis en train de recevoir dans mes ports. C'est à base de ça que je peux dire qu'il y a eu baisse d'activité ou augmentation d'activité. Mais les recettes, ce n'est pas ça. Les recettes ont plusieurs facteurs. Donc, l'augmentation, la baisse des recettes a plusieurs facteurs qui ne dépendent pas totalement du port, qui ne dépendent pas peut-être des intervenants, mais d'une situation macroéconomique. Et là, vous devez savoir que il y a plusieurs facteurs. Alors, là, je voulais mettre les points sur les i là-dessus. Concernant l'intervention de l'honorable Poula, je suis vraiment très content. Je vois que c'est vraiment l'honorable qui est en train de maîtriser les activités dans sa ville où il a été élu. Mais vous devez savoir qu'il y a un problème. Quand nous voyons seulement les quais qui sont désaffectés, on ne voit pas vraiment l'activité portuaire. Depuis que le port existe, le tonnage le plus élevé qu'on ait réalisé, c'est le tonnage de 2009,
qui est maintenant de 2 300 000 tonnes presque. Alors que depuis que le port était construit, il y avait toujours les quais, il y avait les 10 quais, mais on n'avait jamais atteint ce tonnage-là.
Monsieur Omba,
vraiment, oui.
Je vous ai posé une question précise. Est-ce que vous pouvez nous dire, ici et maintenant, si le port de Matadi est le plus cher au monde?
Non. Le problème de port le plus cher au monde, c'est un problème relatif.
C'est-à-dire?
Le plus cher au monde par rapport à quoi, par rapport à qui, et par rapport, je ne sais pas moi, on estime en fonction de quoi?
Alors, il y a un auditeur, hein, Robert Bahomé de Bukavu, Sud Kivu, qui dit « Cette situation a comme explication la non-application des textes légaux et réglementaires adoptés et promulgués en RDC. Il y a un arrêté du gouvernement supprimant certains services de l'État dans les ports, aéroports et frontières, mais qui n'a jamais été respecté. Et pourtant, cet arrêté du gouvernement n'a jamais été abrogé. »
En tout cas, pour nous, au niveau des ports maritimes congolais, nous insistons là-dessus. C'est vraiment même un décret, ce n'est pas l'arrêté, c'est le décret présidentiel qui a réglementé 4 intervenants dans le port maritime. En tout cas, pour nous, nous respectons. S'il y a des clients, par exemple, qui sont dérangés par des gens et que nous ne sommes pas au courant, nous ne pouvons pas tenir compte de ça. Ils n'ont qu'à les dénoncer. Nous allons voir les autorités qui sont localement ici, notamment le gouvernorat des provinces, les mairies, chaque mairie de Goma. On va voir comment réagir, mais en tout cas, officiellement, ce service-là ne fonctionne pas. Il n'y a que 4 services qui fonctionnent dans nos frontières, dans nos ports, et ces services sont reconnus.
Alors, monsieur Omba,
si on parle de taxes ou de redevances ou je ne sais pas moi quoi, en dehors du port, cela ne nous engage pas.
Monsieur Omba, l'honorable Pouela a fait allusion à une 20aine de services. Quels sont ces 4 services dont vous parlez et qui sont autorisés à fonctionner?
Ceux qui sont autorisés à fonctionner, il y a d'abord, pour le cas de Matadi, l'ONACALIMAS, il y a l'OFIDA, l'OCC avec la quarantaine, et la DGM, voilà.
Merci beaucoup.
Les 4 services. L'OCC travaille ensemble avec la quarantaine, la DGM, l'ONATRA et l'OCIDA.
Merci, Monsieur Omba. Honorable Pouela, il y a Pepe Lissungi de Kisangani en province orientale qui dit « S'il y a aujourd'hui hausse des prix en RDC, c'est à cause de plusieurs taxes que les commerçants payent dans ses ports. Je pense que la faute revient au gouvernement provincial du Bas-Congo qui ne surveille pas tellement ses ports. Augustin Mwango de Kindo Manyema lui dit « Je pense que ce qui se passe dans nos ports n'est pas différent de ce qui se passe au poste frontalier de la RDC. C'est vraiment malheureux et décevant des continuer à vivre pareil tracasserie à un an de la fin du mandat des institutions actuelles, surtout que l'on parle de la tolérance zéro. Je souhaite que nos autorités n'attendent pas seulement que les choses soient dites dans la presse pour s'en rendre compte honorable. »
Merci beaucoup. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt mes co-débatteurs. Merci beaucoup à monsieur le chef de département de Port Martin pour le compliment. J'ai juste une mise au point à faire. Il est important, c'est vrai, 2009 a été l'année pendant laquelle on a enregistré, avant que je réponde aux questions de nos amis, tout en disant d'abord au premier que le port n'est pas dans les compétences des provinces. C'est un port national, les deux sont des ports internationaux, mais qui relèvent de la compétence du pouvoir central. Donc, la province n'a rien à voir avec la gestion du port. Bon, étant donné que c'est implanté dans sa juridiction, dans sa circonscription, il y a certaines implications d'ordre sécuritaire qui dépendent de la province. Alors, si l'année passée, on a enregistré beaucoup de ports. Je pense que monsieur le chef de département, sans forcément que je lui contredise, il est important de noter que nous parlons du tonnage utile, du tonnage susceptible d'être dédouané. Nous, mais je pense que nous ne pouvons pas perdre de vue les activités liées aux 5 chantiers. Avec toutes ces importations qui passent par Matadi, il est donc normal que cela ait revu sensiblement à la hausse le tonnage qui est passé par les ports de Matadi, principalement un peu par les ports de Bombe. Or, tous ces tonnages ne font pas l'objet, c'est en franchise, enfin, il y a des exonérations liées à ces tonnages. tonnage, mais nous parlons du tonnage utile, du tonnage à même de pouvoir renflouer, enfin, d'être dédouané pour renflouer les caisses de l'État, enfin, de l'office des passants et passants, des trésors publics. Cela est très important de le souligner. Alors, lorsque nous disons, pour répondre aussi à notre ami qui a posé sa question, les tracasseries, c'est une réalité. Et puis, la mauvaise application, comme il a noté effectivement, de certains décrets, j'ai vu les amis en parler, pour être précis, moi je suis juriste, il s'agit effectivement d'un décret, comme le chef de département l'a dit, le décret 036 du 28 avril 2002, limitant à 4 le nombre de services habilités à prester aux frontières. Il y a la douane, la quarantaine, comme le PM l'a dit, la DGM et les concessionnaires selon les cas, c'est donc l'ONACA pour ce qui concerne nos défauts. Lorsque vous avez une situation comme celle que nous vivons aujourd'hui, avec les dédoublements la décision gouvernementale visant à taxer doublement les importations embarquées sans contrôle avant embarquement et à coup sûr, favoriser l'effritement des importations. Lorsque M. Tati l'a dit, vous achetez une petite voiture Lancer à 800 euros au niveau de la Belgique et que vous payez votre fret, mais que vous devez dédouaner à près de 4 000 $. Donc c'est un peu des limites, enfin, c'est un peu à 400-500%, c'est énorme. Or, nous savons qu'il faut un flux, il faut la rotation. Lorsque vous achetez avec un commerçant de Brazzaville, par exemple, un conteneur au niveau de Dubaï, celui de Brazzaville va obtenir son conteneur 45 jours après, alors que le Congolais, lui, va obtenir son conteneur 5 mois, 6 mois après. Comment on va favoriser le climat des affaires? Oui.
Honorable, permettez-moi de vous arrêter un moment, juste pour une question de précision. Tatine Sungani a évoqué des raisons politiques liées notamment à l'érection du pont Routrail entre Kinshasa et Brazzaville. Qu'est-ce que vous en pensez très brièvement?
Mais effectivement, c'est la programmée de nos ports nationaux, il faut le noter, parce que comment on peut sacrifier à 50 ans de l'indépendance économique de notre pays pour créer la croissance dans un autre pays, je parle de Brazzaville. Nous connaissons les conséquences de la dépendance vers l'Angola dans les années 60-70, c'est que cela nous avait causé comme dépense. Nous devons nous battre, parce que Dieu a doté notre pays des conditions les plus favorables pour que les ports en eau profonde des bananes quittent les discours pour que ce soit concret, que nous puissions le plus urgentement possible avoir ce port. Le chef de l'État venait d'être à moins de la semaine passée, je n'ose pas douter, parce que il a été là avec les directeurs généraux de l'OEBK.
Merci.
L'OEBK, plusieurs ignorent que ça veut dire organisation pour l'équipement banane à Kinshasa. Donc, nous devons avoir un port en eau profonde au niveau des bananes pour acheminer les marchandises jusqu'à Kinshasa, jusqu'à même à Ilebo, d'ailleurs, qui était prévu pour Francky, qu'on l'appelait en son temps.
C'est
comme un fabricant, comme on l'appelle, pour dispatcher les marchandises. C'était conçu comme cela. Donc, nous devons, tous les Congolais, nous battre et exiger la construction du port en eau profonde. C'est une condition de survie de l'économie de la République démocratique du Congo. Sinon, on manque de vision.
Merci.
Sinon, on veut condamner la République démocratique du Congo à disparaître, justement.
Merci à Tatine Sungani. Vous réagissez au propos de précédents intervenants. Mais en plus, il y a Albert Bakota de Matadi au Bas-Congo qui dit « La douane n'en est pas un champ agricole ni une carrière des ministres, que l'État cesse de la considérer comme une unité de production. »
Oui, il a parfaitement raison. Je l'ai dit tout à l'heure. Effectivement, mes co-débatteurs ont suffisamment évoqué la question. Construction du port en eau profonde de Banana s'avère indispensable parce que, comme je l'ai dit au début de mon propos, le port de Matadi avait été conçu à l'époque pour servir d'un port de transit dans l'hypothèse où on devait ériger un port en eau profonde au niveau de Banana. Et pour ce qui est de la douane, j'aimerais ici dire qu'on fait peser sur la douane, l'essentiel des recettes publiques dues au trésor. Alors que dans le pays du monde entier, on a tendance à diminuer les taxes, les droits des taxes douaniers pour faire en sorte que l'on facilite le commerce international. C'est aberrant aujourd'hui de constater que l'actuel ministre des Finances a initié un contrat du dédoublement des recettes. Cela veut dire en clair que l'on va encore taxer davantage que ce qui est déjà fait. C'est vrai qu'il existe des textes qui sont dans tous les cas mal appliqués, mais lorsqu'on demande à la douane de doubler les recettes, ça veut dire qu'au niveau de Matadi, on va envoyer quelqu'un là-bas à Matadi, mais qui va commencer alors à traquer les opérateurs économiques pour leur imposer de payer peut-être des taxes, je ne dis pas imaginaire, mais vous savez qu'il y a une certaine souplesse au niveau de douanes comme on l'est, simplement parce que nous sommes dans un pays relativement pauvre. Alors que l'État aurait dû développer d'autres stratégies pour trouver d'autres recettes additionnelles, telles que la TVA. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, la douane reste un des principaux pourvoyeurs, une des principales pourvoyeuses, excusez-moi, des recettes de l'État. Donc il est important que l'on puisse diminuer la pression fiscale qui est imposée aux opérateurs économiques. Parce que cette pression fiscale est à l'origine du surenchérissement du prix des biens et services de première nécessité. Parce que vous savez, un opérateur économique qui paye plus que ce qu'il devait payer par rapport aux droits et taxes et frais et redevances au niveau du port de Matadi va le répercuter sur le prix. De réserve de ce produit. Et celui qui perd, c'est finalement le consommateur. Mais lorsqu'on regarde parallèlement à cela, le consommateur lui-même, aujourd'hui, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la politique macroéconomique du gouvernement sur base TES veut dire qu'on ne dépense que ce que l'on a. On ne s'autorise pas le déficit parce que la Banque mondiale et le FMI interdisent au gouvernement le déficit. Les pays de la Banque mondiale et le FMI, les États-Unis, ils ont un déficit qui représente plus de 120% du produit intérieur brut. Eux, ils s'autorisent des déficits chez eux. Quand ils viennent chez nous, ils ne veulent pas que nous ayons des déficits. C'est vrai, je conviens que le déficit public qui est créé chez nous va souvent dans le sens d'enrichir des personnes. J'en conviens. Donc cela pose finalement un problème de compétences humaines. Donc il faut que nous ayons des autorités, des personnes qui, tout en créant un déficit public, vont orienter ce déficit dans un sens de développement. Donc maintenant, au niveau de la consommation, nous nous rendons compte que là, il n'y a pas d'argent sur le marché, donc il n'y a pas de revenus. Et puisqu'il n'y a pas de revenus, les opérateurs économiques auront tendance à moins importer. Et forcément, il y a moins de recettes qui seront engrangées pour le compte du trésor public.
Que faire pour rendre les ports du Bas-Congo compétitifs? Pour Titi Mabiala, secrétaire général de l'Union des déclarants en douane du Bas-Congo, UDEDO, l'assainissement dans les ports s'avère important. Pour lui, il faudrait, entre autres, revoir certaines taxes et supprimer certains services qui découragent les opérateurs économiques. On écoute Titi Mabiala, secrétaire général de l'Union des déclarants en douane du Bas-Congo, au téléphone de Kevin Couté.
Nous parlons de la mondialisation. Il serait souhaitable que le guichet unique soit réellement un guichet unique des opérations et des perceptions. Il y a les scanners qui existent. Je pense que si seulement aussi dans nos ports maritimes, on place les scanners, ça va aussi nous aider à faciliter aussi les délais de stationnement. Et comme nous avons dit, la multiplicité des stats, tous les services ont plus le regard tourné vers l'import. Raison pour laquelle, quand vous voyez par exemple que le bulletin de qualification que nous disposons, vous verrez qu'il y a trop de taxes, contrairement à ailleurs où les taxes se sont à compter. C'est un riche dernier. Nous parlons de l'année du social. Je crois que c'est souhaitable que l'État en fait et l'ICA puisse être réduit. Quand c'est réduit, vous verrez que les gens, les opérateurs économiques auront quand même ce goût-là de donner dans nos ports maritimes.
Tito Umba, directeur du département des ports maritimes à l'Office national des transports ONATRA. Comme solution, en plus, il y a des auditeurs qui ont aussi leur point de vue. C'est le cas de Chikala Ilunga de Londres, en Grande-Bretagne. Je pense que, mis à part les problèmes fiscaux et les tracasseries administratives, nos deux ports, Matadi et Boma, doivent être aussi modernisés sur le plan des infrastructures. Patrick de Kalemie-Okatanga, le gouvernement est responsable de cette situation qui préjudicie la population et surtout cause un manque à gagner aux recettes de l'État. Je pense qu'une réglementation et la réduction des services dans ce secteur s'avère indispensable. Quel est votre point de vue?
Ça, c'est sûr, l'auditeur a raison. Vous savez que la modernisation arrange plusieurs problèmes. Si nous voulons essayer d'augmenter la fluidité de nos ports, nous devons être compétitifs du point de vue logistique. Le problème de nos ports maritimes, effectivement, nous avons un réel problème d'équipement et des infrastructures. Et c'est ce problème-là qui gêne un peu la fluidité ainsi que la compétitivité de nos ports. Donc, la personne qui dit cela a raison. Nos ports, aujourd'hui, bien sûr, vous devez savoir que nous ne sommes pas seuls, nous sommes dans une entreprise contrairement à d'autres ports où la gestion du port est autonome, ici, nous fonctionnons dans une entreprise qui fait que le port constitue aussi un élément générateur des recettes pour l'ensemble de l'entreprise. Alors, parfois, il est un peu difficile de penser à l'investissement, il est difficile de financer les infrastructures ainsi que l'équipement. Alors, si il en est ainsi, effectivement, le gouvernement doit aider la société comme on l'a pour son rééquipement ainsi que l'aménagement des infrastructures pour augmenter la compétitivité de nos ports. Ça, c'est vrai, et j'ai conscience là et je participe à son point de vue.
Tate Songani, Yamatoumaïne et Franklin de Bukavu, ce qui est vous qui dit, les fraudes douanières sont une réalité dans toute la République. Je crois qu'il serait mieux d'informatiser nos douanes et faire respecter les textes qui réglementent les services qui doivent fonctionner au port.
Oui, en fait, ça pose le problème de la corruption. Je l'ai toujours dit dans les zones nationales que la corruption est un sport national. Et si l'on veut mettre fin à la fraude ou à la corruption, il faut des sanctions exemplaires. J'entends par ça, sanctions exemplaires, de pêcher des gros poissons. Il ne faut pas prendre du menu frétin, comme on l'a fait dernièrement, on a mis en congé, on a révoqué des fonctionnaires. Non, il faut frapper plus haut. Parce que tant que on n'aura pas donné des exemples réels, les gens vont continuer à frauder. Deuxièmement, comment voulez-vous demander à un agent percepteur, fût-il des douanes, d'impôts ou d'ailleurs, de percevoir normalement les droits et taxes dues au Trésor quand lui-même n'a pas mangé depuis 3-4 jours, quand il n'est pas payé depuis 4 mois, quand il ne s'est pas payé son loyer. Donc il faut quand même que l'on cultive une certaine mentalité de pouvoir aller dans le sens des droits des travailleurs, avant d'attendre d'eux des miracles. Aujourd'hui, tout le monde pointe du doigt à la douane, c'est vrai. Je ne peux pas nier le fait que les services de douane, parfois, sont l'objet d'une délicatesse. Mais en parallèlement à cela, quelle est la responsabilité de l'État vis-à-vis de ce personnel-là? Est-ce que l'État s'acquitte réellement de ses devoirs vis-à-vis de ces personnes? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il faut poser la question de savoir pourquoi ces gens fraudent. Pourquoi ils font de la tracasserie? Pourquoi ils sont l'objet de corruption? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'impunité est une réalité? Les personnes qui devaient être frappées, le sont-elles réellement? Voilà un début de réponse.
Honorable Pouila, il y a Bamboula déclarant en douane de Matadioba Congo qui dit « Pour mettre de l'ordre dans ce secteur, il faut que l'on mette fin à la tarification trop fantaisiste et son non-circuit. » En 20 secondes, parce que vous êtes un peu largement en avance sur le temps.
Oh là là, pas en retard, ok. Merci beaucoup. Je pense qu'il a raison. Et parmi d'autres solutions à trouver, il y a l'abrogation pure et simple, effectivement, de la double taxation des importations sans attestation de vérification par son remplacement de bonnes méthodes d'évaluation conformément à la loi 09. Je pense, si je m'abuse, je pense que M. Tati Touman peut s'en souvenir du 18 mars 2003 relative à l'évaluation en douane. Et puis, il est important de se référer à une facture de référence au lieu de toujours condamner les importateurs à avoir premièrement enfin, les conditions pour divorce, vous savez, il faut une licence d'importation, il faut un compte en banque. Or, les importateurs éventuels, et même nos compatriotes qui vivent en dehors, ils ne peuvent pas remplir toutes ces conditions.
Cela
pose un problème grave. Donc, il est important de revoir à la baisse tout ce tout, parce que c'est le flux, c'est la rotation qui crée les richesses. Hein, au lieu de c'est cette mesure d'ailleurs que nous avons eu à attaquer à son temps devant le ministre des Finances, le dédoublement, le pacte de dédoublement des recettes, ça sature l'économie parce que les peu qui peuvent importer et tout ça retombe sur les pauvres contribuables. Donc,
permettez honorable que je vous arrête à ce niveau parce que l'émission va toucher à sa fin. C'est aussi votre conclusion. Tito Umba, pouvez-vous déjà aborder la conclusion aussi?
Bon, en conclusion, parce que je parle de la première problématique qui a été posée sur la baisse des recettes.
Allez-y très rapidement, je vous en prie.
Oui, mais je veux seulement vous dire que la baisse des recettes n'est pas liée à l'activité,
l'activité, moi, c'est sur base des statistiques, et je vois ça, avec des recettes liées à d'autres facteurs. Bon, merci. On doit vraiment analyser les facteurs. Je crois que vous devez savoir que dans le cadre du fonds d'achèvement, vous devez savoir quand même que
merci.
Le gouvernement a pris une série de mesures qui fait que... Oui.
Merci, on a compris, Takin Sungani, un mot pour conclure.
Oh, pour moi, je pense qu'il y a un certain nombre de décisions à prendre, notamment baisser la pression fiscale, diminuer le service au port, avoir une politique gouvernementale cohérente, moderniser l'outil, motiver le personnel et enfin construire le port en eau profonde de Banana. Voilà.
Fin de cette émission avec vous, Tatine Sungani. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. L'équipe est là, Samuel Kacha, Kéline Kouté, Guy Maté et Guy Manzango à la mise en onde. Alain Irung à la présentation. Au revoir. Thank you.